Et dans l'actualité des idées, aujourd'hui, plaidoyer pour les plantes, suite de notre semaine spéciale autour du climat avec notre deuxième invité, après l'essayiste canadienne Naomi Klein hier, le botaniste Francis Allais, grand défenseur des forêts. Il a notamment fait le pari fou de recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest. L'ancien chef de mission pendant plus de 15 ans du radeau des Cimes, qui explorait déjà les canopées forestières tropicales, a toujours conjugué le terrain à l'analyse. On lui doit notamment le concept de réitération, appliquées aux arbres, soit leur processus de duplication. Et il est également l'auteur de nombreux ouvrages, dont Plaidoyer pour l'arbre, ou encore Plaidoyer pour la forêt tropicale, ou encore Du bon usage des arbres. Il publie aujourd'hui en littérature jeunesse un livre illustré chez Actes Sud Junior, L'étonnante vie des plantes, un retour aux sources de la vie végétale. Bonjour Francis Allais.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous en direct de chez vous, à Montpellier. Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre ?
Des arbres, ça me convient.
C'est
des cyprès et des sophoras.
Voilà, c'est pas étonnant et c'est pour ça qu'on ne vous aura pas avec nous aujourd'hui en studio, parce que vous êtes bien là où vous êtes, la tête dans les arbres, et bien placé pour nous en parler. Dans ce livre, ce dernier livre, pour faire un clin d'œil aussi à ce projet que vous avez mené à deux avec Rosen Torquebio, l'étonnante vie des plantes, Francis Allais, vous avez cherché à répondre aux questions que l'on vous pose, j'imagine, le plus souvent sur la vie des plantes, de la photosynthèse au rôle de la tige, et à toutes les questions qu'on ne se pose jamais, alors qu'on devrait peut-être, sur la mémoire des plantes, sur leur manière de communiquer. C'est un vivant intelligent ?
Oui, la réponse est oui. Mais ce n'est pas l'intelligence de l'être humain copié-collé, hein. C'est une intelligence végétale. Ça n'en est pas moins très efficace.
Comment vous la décririez ?
La possibilité pour les plantes de survivre devant les problèmes énormes et continuels qui les assaillent durant leur vie. Vous savez, être comestible et être fixe et entouré d'herbivores affamés, c'est pas très facile. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il disparaît dans ce cas-là.
Oui, vous dites qu'elles ont un don pour la survie, hein, les plantes. Quels sont leurs principaux ennemis aujourd'hui ?
Nous. Il n'y en a pas d'autres, c'est nous. Voilà. C'est même pas les animaux. C'est l'être humain.
Et pourquoi on leur veut du mal ?
On leur veut pas du mal, on leur veut du bien, on veut les débiter et les vendre.
Ça a toujours été comme ça ?
Je crois que ça a commencé dès le début de l'humanité, oui. Vous savez par exemple que l'Europe était entièrement couverte de forêts primaires avant que l'être humain ne s'y installe. Ils ont tout détruit.
C'est donc dans la nature des hommes, peut-être, de ne pas savoir cohabiter avec les autres formes du vivant, vous diriez ça, Francis Allais, mais il n'est pas trop tard pour apprendre.
Non, on est très gêné par un anthropocentrisme permanent et généralisé. Et moi, je soutiens que d'abandonner cet anthropocentrisme, c'est pas diminuer l'être humain, c'est au contraire l'augmenter considérablement, parce que si cet être humain retrouvait sa juste place dans la nature, nous serions tous gagnants.
Dans les titres de vos livres que j'ai cités en ouverture, Francis Allais, il y a ce mot récurrent de plaidoyer. Le botaniste, c'est un chercheur, c'est un scientifique, spécialiste des plantes, de la biologie et du monde végétal. Aujourd'hui, le botaniste doit-il aussi se faire toujours en permanence avocat, pas comme le fruit, hein, mais avocat presque de profession. Et vu votre obstination, vous, à défendre les plantes, les arbres, on aurait quand même tendance à penser que vous ne croyez pas aux causes perdues. Il y a encore beaucoup à faire pour défendre ce vivant, défendre les plantes.
Écoutez, j'éviterais volontiers de faire des plaidoyers si l'être humain arrêtait de saccager les plantes bêtement. Mais comme ils le font, je me sens obligé de les défendre. Et vous savez, je vous apprends rien, ça parle pas les plantes. Elles sont pas capables de se défendre elles-mêmes. Donc elles ont besoin d'un avocat qui puisse faire un plaidoyer en leur faveur. C'est ce que je fais.
Dernièrement, dans Le Monde, vous dénonciez l'accélération hein, et l'intensification de la sylviculture à échelle industrielle. Parce qu'il y a vraiment deux pans dans votre œuvre, Francis Allais. Je le disais, vous êtes à la fois quelqu'un de terrain, mais aussi un scientifique qui produit de la littérature scientifique autour de ce vivant. Et dans cette littérature, il y a d'un côté ces livres où vous faites œuvre de transmission, où vous cherchez à apprendre à reconnaître la beauté du vivant, à se laisser, comme vous, éblouir. Et c'est le cas de ce dernier livre que vous avez vous-même illustré, Les tenants de vie des plantes. Et puis de l'autre, il y a des livres ou des tribunes un peu plus critiques. C'est le cas de celle que vous avez publiée récemment dans Le Monde. L'industrie du bois tue et détruit les arbres sans tenir compte des services qu'ils nous rendent. Abattage, commerce du bois. En 2011, déjà, Francis Allais, dans un petit livre du bon usage des arbres, plaidoyer à l'attention des élus et des énarques, vous faisiez le porte-voix de ces forêts ratiboisées. Nos responsables n'ont toujours pas compris, 20 ans, 10 ans après.
Non, ça ne progresse pas, notamment dans les pays tropicaux où là, ça devient effrayant. Non, non, ça ne progresse pas, donc le plaidoyer, il n'est pas fini.
Pourquoi ce même laisser-faire?
Parce que ça rapporte, c'est pas compliqué. Attendez, si vous attaquez une forêt primaire tropicale que vous n'avez pas eu besoin de planter, puisqu'elle est naturelle, vous n'avez pas eu besoin de prendre soin des arbres, vous les abattez et ça se vend. Bon, allez, disons 300 à 500 000 euros l'agrume. Ben, vous voyez en plus, les gens qui vous aident, c'est des gens du pays qui sont sous-payés. Vous vous rendez compte des opportunités économiques qu'il y a là-dedans? Moi, ça me choque considérablement parce que ces arbres, ils ne sont pas aux abatteurs de bois, ils sont à nous tous. C'est notre bien commun et c'est ce qui nous permet de respirer.
Cette incompréhension vis-à-vis des arbres a de solides racines, écriviez-vous, déjà dans ce petit livre du bon usage qu'on évoquait à l'instant, du bon usage des arbres, comme la peur ou même la haine que parfois ils inspirent. Et vous citez, c'est quand même assez étonnant, Sartre, Deleuze et même Beckett, qui faisaient dire à Estragon, en attendant Godot, un arbre, ça ne sert à rien, ça ne peut servir qu'à se pendre.
Ce petit bouquin, il a déjà quelques années et j'ai pu augmenter considérablement la liste de ceux qui détestent les arbres. Maintenant, attendez, c'est tout de même peu de choses si vous mettez à côté la liste des gens qui aiment bien les arbres. On est dans l'ensemble plutôt en faveur des arbres. Ceux qui les coupent, c'est ceux qui, bah, qui, ça leur permet de gagner du fric, c'est tout.
Vous disiez les arbres, c'est notre bien commun, les forêts, hein. Pourquoi serions-nous tous bien inspirés de leur porter plus de respect?
Parce que nous en avons besoin.
À
Nous
quel
faisons
titre?
partie de la biodiversité et le summum de biodiversité dans une région, c'est la forêt. Donc nous en avons besoin. Ajouter à ça que ça enrichit les sols et que ça nous permet de respirer, ça fait tout de même pas mal de raisons de respecter la forêt.
Depuis que vous avez commencé. Pardon, Francis Allais, je vous ai pas entendu.
Oui, vous ne semblez pas convaincu.
Si, 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 je suis convaincue, mais je pense que c'est intéressant de convaincre tout le monde et peut-être aussi d'illustrer, de raconter, comprendre ce qui se joue en ce moment et la perte à laquelle nous sommes confrontés. Parce que depuis que vous avez commencé à alerter, Francis Allais, le danger semble s'être déplacé. Est-ce que vous diriez que de lointain, des forêts tropicales, il est aujourd'hui vraiment à notre porte ce danger?
Mais le fait que ça soit tropical n'a aucune espèce d'importance. La biodiversité, elle est surtout tropicale, et ce sont des forêts qui fonctionnent toute l'année et qui fonctionnent beaucoup plus fort, puisque les arbres ont des surfaces beaucoup plus grandes. Donc, je m'attache particulièrement à ces forêts-là. Mais pour l'instant, comme je ne peux pas voyager, eh ben, je m'occupe des forêts d'Europe.
Et comment vont-elles?
Pas très bien, parce qu'on a tendance à les abattre pour les remplacer par des plantations d'arbres. Et le pire, c'est qu'on essaye de nous faire croire que ce sont des forêts. C'est ça que je supporte pas. Je n'ai rien contre les plantations d'arbres. Nous avons besoin de bois. Et apparemment, nous en aurons de plus en plus besoin. Donc, c'est normal qu'on abatte des arbres. Mais n'abattons pas les arbres de la forêt, abattons les arbres qui ont été plantés pour ça. Excusez-moi, je prends une comparaison. Si vous avez envie de manger un poulet, Vous n'allez pas dans le nord de la Thaïlande chasser les poulets à l'état sauvage. Les poulets, on les élève, et donc il est assez normal qu'on les utilise pour notre alimentation. Eh bien, les arbres, c'est pareil. Si on a besoin de bois, ben, plantons des arbres et utilisons-les comme source de bois. Là, ça ne me choque pas.
Voilà, une sorte de culture d'élevage des arbres.
Oui, c'est ça.
Et pourquoi est-ce qu'on a...
Laissons tranquille la forêt naturelle qui, est de toute façon, est beaucoup moins rentable pour les industriels.
Alors qu'elle est rentable pour qui? Pour nous, pour notre écosystème? On a besoin d'elle?
Mais oui. Ça a l'air de vous étonner. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, moi.
Ben, visiblement pas, puisqu'on continue à ratiboiser les forêts.
Non, non, je parlais de vous.
Ah, de moi? Bon, ben pardon, moi je vous pose des questions. Je suis à distance, c'est vrai qu'on ne se voit pas.
Mais vous en poserez aussi, n'ayez crainte.
Vous allez m'en poser? Ouïouïouï. Quelle différence, Francis Allais? Si vous permettez, je vous en pose encore quelques-unes. Quelle différence entre une forêt primaire et secondaire?
Écoutez, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que j'ai posé cette question-là à des étudiants de Montpellier il y a quelques années et ils m'ont donné cette comparaison que j'aime beaucoup, j'aime bien la citer. La forêt primaire est à la forêt secondaire, ce qu'un grand champagne millésimé servi frappé dans une haute flûte de cristal est à un coca tiède dans un gobelet en carton.
Alors ça, c'est le millésimé, c'est la forêt primaire et la secondaire, c'est le coca tiède.
Voilà.
C'est ça.
Et il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour reconnaître si la forêt est primaire ou secondaire. Si elle est très, très belle, c'est qu'elle est primaire.
Ça veut dire que...
Ça paraît subjectif, mais je mettrai en tête cette extraordinaire beauté de la forêt primaire. La forêt secondaire, bah, c'est celle qui nous entoure et que nous avons dans toute l'Europe. Bon, alors, on peut les trouver belles. Il y en a qui sont vraiment pas mal du tout. Mais... ceux qui les trouvent belles, c'est qu'ils n'ont pas en tête la véritable référence en la matière, qui est la forêt primaire. Et je ne vois pas comment ils auraient cette référence, puisque nous n'avons plus de forêt primaire en Europe.
Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été exploitée par l'homme?
Ouais, elle a pu l'être, mais ça remonte à une époque suffisamment ancienne pour que le caractère primaire soit revenu. Ça me paraît un point très important. On abandonne le terme de forêt vierge, qui était très habituel quand j'étais enfant, mais cette virginité récurrente, ça me fait rigoler un peu. Donc, primaire, c'est mieux.
On va ouvrir grand les oreilles, si vous le voulez bien, Francis Allais, et aller se balader avec vos yeux dans deux forêts. On va commencer par le Jura. Si vous le voulez bien, on écoute. Vous avez dû récemment ou plusieurs fois dans votre vie, Francis Allais, vous balader dans une forêt du côté du Jura, une forêt française. Alors là, on est dans une forêt, ce que vous appelez une forêt secondaire, hein, c'est ça. Qu'est-ce que vous voyez?
Mais vous devriez préciser que la prise de son a été faite au printemps, parce que si vous la faites au mois de janvier, ça sera moins intéressant.
Au printemps et un matin. Alors, je vais préciser ça aussi pour vous, Francis Allais. Qu'est-ce que vous voyez là, en ouvrant les yeux? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Quelle richesse?
Je ne comprends pas la question.
Si vous étiez en train de vous balader dans cette forêt-là, dans les Alpes, qu'est-ce que vous voyez? Nous, on entend le son, on entend les bruits des oiseaux, on entend crépiter aussi les pas dans cette forêt. Vous, qu'est-ce que vous voyez? À quoi elle ressemble, cette forêt-là?
C'est les Alpes, là, ou le Jura? C'est les Alpes.
C'est les Alpes.
Oh bien oui, ben, j'aime beaucoup ces forêts-là. Je les connais moins bien que celles des tropiques, mais je les apprécie beaucoup. Peut-être un petit peu trop de conifères.
Il y en a plus dans ces forêts-là. Et pourquoi vous dites que vous les aimez moins que les forêts tropicales?
Parce que c'est beaucoup moins beau et beaucoup moins riche. Si vous aviez mis les pieds dans une forêt tropicale, l'avez-vous fait?
Non.
Ah ben voilà.
Je comptais sur vous pour y aller.
Quand vous voulez, alors là, c'est pas un problème. Mais c'est infiniment plus beau, voilà. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Et il ne faut pas s'y perdre, sinon on perd tout sens de l'humour.
Alors on va y aller en Guyane française, si vous le voulez bien.
Très bien, très bien.
Alors là, en quelle saison sommes-nous, Francis Allais ?
Alors là, je vais vous dire, la forêt tropicale, c'est le maximum de variabilité. Vous auriez fait cet enregistrement 3 km plus loin, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai entendu. C'est un caractère extrêmement local, vous voyez. Le grain de la biodiversité est très très petit. C'est des, ce que vous me donnez à entendre, c'est local. Beaucoup plus que les forêts que j'ai entendues avant en venant d'Europe.
Et ce qu'on vous donne à entendre, est-ce que ça vous met aussi des images dans les yeux ?
Ah, écoutez, vous me retournez le fer dans la plaie. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller en forêt, là. J'ai plein d'amis qui me demandent de les conduire en forêt pour leur en parler. Et j'ai repéré des sites, mais je ne peux pas pour l'instant. Alors, ne me faites pas miroiter la forêt, puisque je ne peux pas y aller.
On en est tous privés, tous confinés en ce moment, Francis Allais. Vous racontez très joliment dans vos films, dans vos livres, que nos forêts ont une histoire et que cette histoire, il faut prendre le temps de l'écouter, car elle a pris le temps de s'écrire. Sur cette forêt guyanaise, par exemple, qu'on vient d'écouter avec vous, dans laquelle on s'est rendu à l'instant, avec nos oreilles, peut-être pas avec nos yeux ni avec nos corps, quelle est son histoire ? Quel âge elle a ?
Écoutez, ce qui limite la durée de vie d'une forêt, c'est rien d'autre que les changements climatiques. Si le climat ne change pas, une forêt n'a aucune raison de s'éteindre, et si on la détruit pas, bien sûr. Et ça n'a pas de durée de vie limitée, une forêt. Si le climat est bon, elle continue à vivre, elle est dans un sens complètement immortelle. Alors c'est d'autant plus vrai qu'on est plus près de l'équateur, parce qu'il n'y a jamais eu de glaciation au niveau des très basses latitudes équatoriales. Eh bien, la forêt guyanaise, je pense que depuis le Crétacé, elle existe.
Et les arbres sont une horloge, hein, aussi.
Une horloge ?
Oui, ils se souviennent du temps, de ce temps qui passe.
Ah, mais vous voulez dire qu'ils ont des cernes dans leur tronc qui nous permettent de connaître leur âge ? Ça ne veut pas dire qu'ils s'en souviennent. Hein. La mémoire chez les arbres, oui, il y a des mémoires, mais pas celle-là.
Quelle est la première forêt primaire que vous avez arpentée, vous, Francis Allais ?
Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'année 63, en bordure même de la ville. C'était tout à fait étonnant d'avoir une belle forêt primaire, hein, un peu comme si c'était le bois de Boulogne. Hein. Malheureusement, j'y suis retourné quelques années après, et il n'y a plus rien. Il y a des supermarchés avec des parkings asphaltés.
Elle a disparu, cette forêt-là ?
Complètement, elle a été abattue, oui.
Vous avez depuis longtemps, et vous en reparliez récemment, le projet de recréer une forêt primaire en Europe. Pour qui ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas. Et pour qui ? Parce que je voudrais montrer, non pas à mes contemporains, puisqu'il va falloir plusieurs siècles, mais aux Européens de l'avenir, la beauté des paysages qui entouraient leurs ancêtres. C'est extrêmement beau, si on est seulement attaché à la beauté, c'est là que ça se passe. Alors il y a un plus pour ceux qui s'occupent de la diversité biologique ou de la recherche scientifique en général. Les forêts primaires, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compliqué que toutes les autres forêts. Donc voilà, je voudrais qu'on s'imagine pas que nos petites forêts secondaires qu'on a maintenant, ça soit le maximum de la beauté, parce que c'est vraiment dommage.
Et comment faire alors pour bâtir, pour créer une forêt primaire en Europe ?
N'employez pas ce terme de créer, parce que on va rien planter. On va juste laisser la nature agir. La nature sait très très bien faire une forêt primaire. Elle le fait d'ailleurs assez vite. Mais l'important, c'est de ne pas intervenir. Et je ne veux pas être discourtois, mais l'être humain là-dedans, c'est comme des chimpanzés ivres dans un magasin de porcelaine.
Donc il aurait pu exister déjà des forêts primaires et on a empêché ces forêts de se développer aussi.
Non, on ne les a pas empêchées de se développer, on les a détruites. Nos ancêtres ont détruit les forêts pour... Alors, remarquez, je ne leur en veux pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sentiment écologique. Ils avaient besoin de bois de feu et de bois d'œuvre. Ils avaient besoin de terres agricoles Et puis, ça leur paraissait une immensité infinie, la forêt de plaine, des plaines d'Europe. Bon, je vois pas pourquoi ils se seraient limités. Alors, on sait maintenant que c'est dommage qu'ils aient tout détruit. Mais je ne peux pas leur en vouloir. C'est une époque où le sentiment de devoir protéger la biodiversité ou lutter contre le changement climatique, c'était des choses qui n'avaient aucun sens. Bon, ben là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ramener un petit morceau de l'état antérieur. Il ne s'agit pas de créer de novo une nouvelle végétation, non. Il s'agit simplement de montrer dans quoi vivaient nos ancêtres.
Et ça, il faut le faire pour les générations futures.
Ah oui, ça c'est certainement pas moi qui verrai le résultat, parce que selon l'état de la forêt au départ, selon l'âge de la forêt au départ, il va falloir attendre 4, 5, 6, ou même plus, nombre de siècles. Et c'est pas un choix, cette durée, c'est la rapidité avec laquelle travaille la nature quand on lui fout la paix.
Elle prend son temps. Il faudra du temps.
Pourquoi parler de temps? Pour nous autres êtres humains, c'est extraordinairement long. Mais si vous parlez de durée comme ça à un géologue, par exemple, 10 siècles, pour lui, c'est un clin d'œil, pas plus. Donc le temps, il est. Ça dépend de qui en parle. Évidemment, des siècles pour un être humain, c'est pas mal, c'est beaucoup. Mais pour les plantes, c'est peu.
Vous avez commencé à convaincre autour de vous pour que cette forêt primaire en Europe voie le jour.
Écoutez, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'Éric Fabre, qui est maintenant le secrétaire général de notre association. Et depuis qu'il s'occupe de ça, nous avons des centaines et je pense même des milliers d'adhésions. Ça intéresse beaucoup les gens. Vous savez, je crois que la pandémie a donné à tout le monde l'envie de sortir dans une nature sauvage et magnifique. C'est possible qu'il y ait un lien avec cet engouement, cet enthousiasme, je pourrais dire, du public envers ce projet qui est par ailleurs assez utopique.
Vous avez évoqué tout à l'heure votre premier pas dans une forêt primaire, juste après 1960, du côté d'Abidjan, la disparition aussi de cette forêt que vous avez tant admirée, où vous vous êtes émerveillé devant ce que vous avez pu voir à ce moment-là. Il y a d'autres projets qui voient le jour en ce moment, et notamment celui d'une grande muraille verte, Francis Allais. Je vous propose d'écouter les mots d'un écologiste sénégalais. Il s'appelle Haïdar El Ali. Il fait partie des écologistes qui pèsent aujourd'hui. Il est membre honoraire de l'Océanium de Dakar, qu'il a présidé pendant plusieurs années. On l'écoute.
Comment est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver quand on fera comprendre aux gens l'importance de la plante, de l'arbre, à tous les niveaux. Il faut rendre les choses possibles.
Ce n'est pas l'argent qui rend les choses possibles, forcément.
Non, pas forcément. On en a besoin, mais... Ce n'est pas seulement l'argent. Quand il s'agit seulement de l'argent, c'est dommage. En tout cas, pour moi, c'est une question de volonté, de détermination, d'engagement politique à tous les niveaux, citoyens. Et après, on a besoin de moyens pour mettre le carburant dans la voiture, aller sur le terrain, c'est sûr. On ne va pas y aller à pied, ne déconnez pas. Mais il ne peut pas s'agir que d'argent, je suis désolé.
Et les milliards qui ont déjà été dépensés?
Mais quels milliards? J'entends parler que de milliards, 30 milliards fonds vert climat, 14 milliards One Planet Summit. Mais où ils sont ces milliards-là? D'abord, il faut savoir, bon, moi je ne les vois pas. Ensuite, dans des projets qui vont faire travailler des gens qui s'en foutent d'avoir du résultat ou non. Mais je ne veux pas aller là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Ça, la preuve, c'est que l'environnement recule partout. Malgré tous les milliards qu'on injecte là-dedans, le résultat n'est pas là. Alors, il faut changer de méthode. Si vous accompagnez que les gens qui savent écrire des dossiers, faire des séminaires, faire des rapports, vous n'allez pas en sortir, parce que ceux qui font ça, ils font rien d'autre que ça. Accompagnons les gens qui font réellement sur le terrain. Et vous allez voir la différence.
Haïdar El Ali, extrait d'un grand reportage de France Culture, Francis Allais, sur cette grande muraille verte, cette clé de l'avenir de l'Afrique.
Je suis content d'avoir entendu Haïdar El Ali parce que je connaissais son nom depuis longtemps et ce qu'il dit est parfaitement vrai. J'apprécie beaucoup cette intervention.
C'est-à-dire, ce qu'il dit de si vrai et de si juste pour vous, c'est aussi Parce que vous n'êtes pas le seul défenseur des forêts, on l'entend. Ce qu'il y a d'assez étonnant dans ce projet lancé à la fin des années 2000, qui prévoit de faire naître cette grande muraille verte pour freiner aussi l'avancée du désert, c'est l'implication, l'investissement des populations. Il mise beaucoup là-dessus, lui, au Sénégal.
Je crois que le Sénégal, c'est le seul pays où ça marche bien. Peut-être grâce à des gens comme lui. Sur tout le reste de la muraille verte, jusque dans l'Est africain, je crois que dans l'ensemble, c'est raté parce qu'il s'agit de populations pauvres et qui n'ont pas les moyens, pas le temps même de s'occuper de cette muraille verte. Leur problème, c'est de survivre. Donc, je leur en veux pas. Mais le projet est énorme et donc il faudrait faire intervenir des gens qui ont les moyens de le mener à bien.
Ce serait qui ?
Ah, il faudrait embaucher des jardiniers, des planteurs d'arbres. Il y en a sûrement dans ces pays-là, mais ce n'est pas les villageois qui sont à côté de la muraille verte.
Mais ça les concerne directement aussi. Et c'est peut-être la force de ce projet de vouloir inclure les populations locales. Ce projet, il vise aussi à restaurer des écosystèmes sahéliens qui se sont perdus.
Vous dites qu'ils se sont perdus.
Moi, je dis qu'ils ont été détruits. Pardon.
C'est pas pareil.
Ça fait deux fois que vous me reprenez.
C'est un magnifique projet et je suis vraiment triste de voir qu'il ne progresse pas. À part le Sénégal qui, visiblement, s'en sort beaucoup mieux que les autres pays le long de cette transversale africaine.
Mais c'est une fois encore ce que vous évoquiez, des paroles qui sont fortes, mais des actes qui n'avancent pas, des actes au ralenti. Là encore, ce sont les mêmes blocages qui sont à l'œuvre.
Et je crois que, comme le dit très bien Saïd Harelali, c'est les gens qui travaillent dans des bureaux et qui ne connaissent pas véritablement le terrain. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas apprécier la beauté et l'intérêt et l'utilité des forêts. Tant que ça reste livresque et au niveau de la paperasse, vous comprenez que ça ne peut pas avancer. C'est ça qu'il a dit, Saïd Harelali. Il a raison.
L'Afrique, c'était l'un de vos premiers terrains d'enquête, Francis Allais, l'un de vos premiers.
Mes premiers contacts avec les forêts tropicales, ça a été en Côte d'Ivoire. Oui. Après, il y en a d'autres, mais j'ai commencé par là et c'était absolument magnifique. Je continue à aimer beaucoup la forêt africaine.
C'est aussi là, sur ce continent, que se joue l'avenir de la forêt.
Oh non, il se joue sur l'ensemble des régions tropicales. Afrique, Amérique, Asie, Mélanésie, etc.
Il y a des mobilisations d'ailleurs qui se passent partout, qui se jouent partout, en France aussi, avec beaucoup de citoyens qui se lèvent contre cette déforestation, cette industrialisation de la forêt. Touche pas à ma forêt, ce sont des actes citoyens. Vous accompagnez cette jeune génération dans ses combats pour les plantes, pour la défense de la forêt aujourd'hui, Francis Allais. C'est ça aussi, cette idée de transmission que vous avez ?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait du côté de ces gens-là. Je touche pas à ma forêt, je les connais. J'ai malheureusement pas le temps dans la journée de soutenir comme je l'aimerais toutes ces tentatives-là, mais je suis totalement de leur côté.
J'aimerais qu'on écoute un dernier témoignage, celui de Julien de Normandie, d'un ministre. Écoutez ses paroles, c'était l'an dernier.
Dans le budget qu'on vient de faire adopter, on a augmenté une nouvelle fois les dotations d'action vis-à-vis de l'ONF. Et surtout, je le lance aujourd'hui d'ailleurs, on lance le plus grand plan de reboisement depuis l'après-guerre. On met 200 millions d'euros, dont une immense partie va revenir à l'ONF, une immense partie. 200 millions d'euros pour reboiser nos forêts, pour faire en sorte de planter 50 millions d'arbres, pour donner des nouveaux moyens d'action à l'ONF, notamment les nouvelles technologies qui permettent de faire des gestions forestières. Un tel plan d'action pour les forêts n'avait jamais été connu depuis l'après-guerre, où on a beaucoup replanté avec notamment des résineux dans notre pays. Moi, la forêt, vous savez, contrairement à ce qu'on pense, la forêt dans notre territoire, elle a doublé depuis le 19e siècle. Elle a doublé en superficie. Mais la forêt, aujourd'hui, elle est malade. Elle est malade de la sécheresse. Elle est malade de maladies sanitaires, notamment les scolytes. Et donc, il faut l'accompagner, il faut reboiser. Sauf que, effectivement, l'ONF n'a pas forcément les moyens d'aller replanter autant qu'il ne faudrait. Donc, je donne ces moyens-là. On fait un plan de 200 200 millions d'euros.
Alors ce plan de reboisement annoncé pour nos forêts françaises, Francis Allais, vous applaudissez? Vous l'accueillez favorablement?
Non, je n'applaudis pas. J'aimerais avoir une discussion à fond avec Julien de Normandie. Parce que ce qu'il n'a pas compris, c'est que si on plante 50 millions d'arbres, ça fera des plantations. Quand il dit qu'en France, il y a de plus en plus de forêts, c'est parce qu'il confond les plantations avec les vraies forêts. Voilà, c'est ça, à mon avis, ça part d'un malentendu complet.
Donc une fois encore, on sauve une filière plus que la forêt.
C'est ça, très exactement. Oui.
Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'une forêt devienne une réserve de la biodiversité?
Écoutez, ça me rappelle ce que disait mon ami Terrasson, un écologiste extraordinaire qui nous a quittés trop tôt. Terrasson, il disait, vous aimez la nature, eh bien foutez-lui la paix. Ça a l'air idiot, mais le plus compliqué, c'est de disparaître, c'est de se faire discret. Nous sommes manipulés par un anthropocentrisme gigantesque. Et je ne voudrais pas être méchant, mais je crois que ça atteint particulièrement la foresterie.
Et ça, ça a une histoire aussi.
Oh, c'est vieux comme l'être humain.
Foutez-lui la paix, ça veut dire aussi lui tourner le dos, mais ça ne répond pas à cette question que beaucoup posent aujourd'hui. C'est comment cohabiter, comment vivre ensemble?
Eh bien, simplement avec de l'empathie et un sens de l'admiration, et puis le goût de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, et pas seulement le besoin de gagner de l'argent au maximum dans le minimum de temps.
Si je vous demandais, Francis Allais, pour terminer, de me dessiner une forêt, quelle forêt vous me dessineriez?
Alors, celle de Guyane, sans aucun doute. Je l'ai déjà dessinée depuis très longtemps. C'est très beau de dessiner une forêt, mais il faut beaucoup de temps. Il faut plusieurs semaines en forêt et encore plusieurs semaines au laboratoire pour faire le dessin.
Et ces dessins, vos dessins, certains d'entre eux, en tout cas, on peut les retrouver notamment dans ce livre, à l'adresse des grands et des petits, parce que vous voyez, des grands comme moi ont encore beaucoup à apprendre. Vous vous étonniez de toutes mes questions. L'étonnante vie des plantes, ce livre que vous avez écrit avec Rosane Torquebio et où vous avez, vous, dessiné toutes les illustrations qui nous parlent de la vie des plantes, qui nous apprend à nous émerveiller face à elles, vient de paraître chez Actes Sud Junior. Merci beaucoup, Francis Allais, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.
Merci pour cette connexion à distance et rouvrez grand votre fenêtre sur les arbres d'où vous êtes à Montpellier.
C'est déjà fait.
Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, également à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture. Merci à eux, à Valentine Alouin et Cathy Renaud qui nous ont aidés dans la préparation de ces émissions. À Jeanne Aléos également et Marianne Chassor qui nous ont rejointes le temps d'un confinement. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Audrey Guélil. Très bel après-midi à tous sur France Culture.